Salut mes chers passionnés de musique,
salut,
bienvenue
bonhomme.
à La Paire d'Écouta, saison 5 et épisode 3. Et puis on est de retour chez Steph. Salut Steph, comment ça va?
Allô, ça va vous?
Ouais. On fait un petit break de la boîte musicale, c'est pas parce qu'on aime pas Bob.
Non,
c'est
pas
parce qu'on
n'a
pas de performance. Hein?
Il veut plus nous voir.
Non, il veut nous voir, mais sérieusement Steph, je t'avais pas dit, il était bien content qu'on prenne un break, lui aussi.
Ah ouais?
Ouais! C'est bien la job!
Aller dans... 80 heures, ça merde,
tu sais. 8 days a week, là, c'est ça.
8 days a week. Ouais, c'est ça, fait qu'il est bien content. Puis nous, on est bien content aussi de se retrouver dans nos bonnes vieilles chaussures chez Steph. On est bien greeté.
Ouais.
On avait des jujubes aujourd'hui.
Ouais.
Des chips.
Voilà.
Tout ça, on l'avait.
De la bière aussi. Hein?
J'ai dit ça, je dis rien.
Autour de ma table! Autour de ma table! Se trouve, mon cher Adik. Comment ça va?
Salut, j'ai trop. Ah, pourquoi je prends de la grippe en même temps? C'est le fun.
Non, j'ai plus la grippe. Le virus y est passé.
Parfait.
Comment ça va, Adik Lago?
Ça va numéro 1.
Numéro 1?
Même 2.
Ouais, ça paierait pas vraiment.
Non,
c'est ça qui est
dommage. Je suis fatigué.
On est fatigué. Si on continue par ici, j'ai ici la charmante Virginie, pour ceux qui la suivent sur Instagram.
Pas en tout!
C'est ma fille, donc soyez clément. Puis,
ouais.
C'était facile à deviner, vous avez les cheveux et les chandails qui matchent.
Caro Fraîchet à son retour, enfin! On s'ennuyait un peu de ses petites bavures. Elle est revenue avec Croque-Note. Elle avait pris un break. Pourquoi qu'elle avait pris un break déjà à l'épisode 2?
Ça a été en tête.
C'était quoi, donc?
Je travaillais!
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Elle se ramasse de l'argent pour aller voir BTS
en Corée.
Je sais pas, je vais
le
voir en Corée, mais j'aimerais ça.
Et puis ici, à ma droite, nos invités de la soirée avec Émilie Leclerc, qui est ici. Et puis David Dufour. Mais Émilie, qui est, je sais pas si on va la voir. Son visage, Steph, comme du monde. Regardez son visage. D'un coup que ça vous dit quelque chose, parce que cette femme-là me disait quelque chose avant que je l'approche pour l'inviter ici à la part d'écouteurs. Parce qu'on la voit à l'écran, à la télé. C'est une femme qui est diplômée à l'école de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe, n'est-ce pas? Et puis, elle accumule les apparitions télé, web, théâtre, un peu
tout.
Ouais.
Radio.
Au cinéma. Puis, on a pu la voir, entre autres, qui a vu Nitro Roche, pas grand monde,
non.
Mais t'étais là-dedans quand même, au secours de Béatrice. Ou bien aussi, on a pu la voir en train de vomir aux côtés de Luc Picard à la découverte d'un cadavre dans Les Jeunes Loups.
Oui.
Saison 2 ou saison 1?
Saison
1. Ouais, ouais.
Et on va voir ça ce soir, mesdames et messieurs.
On pourrait quasiment même.
Un extrait.
J'ai-tu le droit? Je pense que je mettrais l'extrait parce qu'elle a vomi, mais ouais, Les Jeunes Loups, saison 2, je crois.
J'ai fait les deux saisons,
puis
c'est dans la saison 1 qu'on découvre.
C'est ça. Alors, c'est bien normal que son visage vous dise quelque chose, mes chers auditeurs. Sinon, moi, je l'aurais quand même reconnu à cause de son blog. C'est un blog.
On peut dire oui que ouais. Oui.
Sur Instagram, qui s'appelle La Petite Bière.
Voilà.
Et puis, ça consiste en quoi, ça, en gros, mettons?
Avec La Petite Bière, je parle de mes coups de cœur, de la scène brassicole, d'Amérique du Nord principalement. J'essaie de focusser sur le Québec le plus possible, mais c'est sûr que, bon, mes voyages et tout me mènent beaucoup sur la côte est américaine et à travers les échanges aussi de gens que je rencontre, il y a des gens qui m'amènent de la bière de partout aux États-Unis, mais principalement, ouais, la côte est. Puis c'est ça, fait que je parle de mes coups de cœur, de mes accords mets et bières... même parfois de recettes avec de la bière ou des spiritueux, mais principalement.
Les spiritueux, moi,
c'est pas. C'est rare, okay, ouais.
C'est, ça. Moi, j'ai pas
c'est plus rare, ça. Ouais. Mais ça arrive.
Mais
ouais.
Souvent, c'est des super belles photos. Là,
merci,
tu te mets, mettons.
On est sur un bon teamwork avec mon chum, là. On fait tout ensemble.
C'est lui qui
tout
prend
le
les
temps.
Photos.
Ouais, toujours,
c'est
ouais.
Vrai. Mentionne son nom, tant qu'à ça.
Ben, c'est Carl Thériault, photographe.
Allô, Carl.
Salut, Carl.
Salut,
voilà.
Carl.
Oui, c'est vrai, tu prends des belles photos, mais t'as aussi un beau modèle, n'est-ce pas? C'est cool quand même. Ce qui me dérange, c'est comme.
Un beau mollet, c'est comme.
Ah, aussi, un vrai mollet, moi aussi.
Mais c'est drôle, pareil, parce que les bières que tu ramènes, moi, j'y vois jamais nulle part ailleurs. Là. Ça me gosse souvent. Parce que
ouais.
Je peux pas les boire. C'est
ouais. Mais c'est pour ça que j'essaye de focusser plus, de rester quand même dans le Québec. Là, parce que ça serait facile là, de juste être dans les bières américaines tout le temps ou canadiennes, mais j'essaye de. C'est ça. de toujours me rappeler que je suis au Québec, puis que ça, moi aussi, ça me fait chier. Je suis comme, oh my god, ça a l'air trop bon. Fuck, c'est à Washington, tu sais, genre.
Ouais. Non, mais tu peux, mais. Mais tu dis que c'est à Washington.
Ouais, et j'essaie de le dire pour pas justement que la personne se mette à chercher ça et qu'elle tombe.
Donc c'est disponible, c'est, mettons, vous allez chercher la petite bière sur Instagram.
Oui, tout à fait.
Il y a aussi la page de la petite bière sur Facebook. Puis sinon, en reprise, quand tu vomis au côté de
oui, tard, voilà. Sur Illico.
Quand elle boit trop de bière aussi, elle vomit.
Ah ouais, ça c'est pas, ça n'est pas arrivé, hein. Ça.
Et puis, ben, comme je viens de mentionner, Détran, qui, si Steph, tu peux faire un petit zoom sur son album Dieu est un Yankee qui vient de paraître. On l'aura tantôt aussi avec l'intervalle en entrevue et en performance parce que t'es généreux.
Oui.
Tu vas nous faire une.
Là, le podcast est commencé, là.
C'est pas ça.
Petit nono. Mais, mon cher Simon, on est commandité.
Oui, on est commandité.
Par simplement.
Oui.
Et ce soir, c'est un spécial.
Parce qu'on va en profiter parce que madame est avec nous.
Ouais. Hein?
Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on boit?
On boit le. Là, je le bois pas ici, là, mais c'est la... La macérère au cassis et mûr.
Merci René, parce que ça, ça se trouve plus, là.
Non, ça se trouve plus.
C'est comme un mélange, c'est un baril, un gros baril, là.
On va l'ouvrir, tu veux-tu l'ouvrir,
mais c'est une édition limitée.
Tu veux dire qu'il y a un baril, il y a une quantité limitée de.
C'est quoi, c'est dans un fût de chêne. C'est dans un fût de chêne, puis il n'y en a pas comme à l'éternité.
Ah, ben ça prend de la place en limité de
non, non. C'est pas comme la potion magique, ça.
C'est conçu, pour vrai.
Oui, oui.
Je pensais qu'un
Barry,
ça
n'avait
jamais
de fun. Non. Dans Adventure Time, peut-être, mais dans la vraie vie.
Ça arrive des fois.
On a
dit ça. Ah, mais c'est bon. C'est pas, j'ai pas assez attendu. Je l'ai brassé un peu. Ah, trop tisté.
C'est vrai qu'elle a fait ça. Pourquoi tu as fait ça? C'est-tu.
Hey, wow, là!
Ben non, mais pas vrai, t'as fait ça.
Ben, je l'ai brassé parce que quand c'est marqué,
oui,
des fois, il y a des... Le lit, c'est bien de le mélanger à certaines occasions.
Okay.
Oui. Oui, voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait.
OK. Ça n'a pas débordé.
C'est pas très bien. Ça sera ma portion.
Alors, est-ce que Émilie, tu as déjà goûté à cette macérant? Ça, c'est la cassie.
Jamais. J'ai jamais goûté.
Merci, okay. René.
Moi,
merci,
René.
C'est la première fois, René.
Salut, René, en passant. Je connais René.
Ben
elle
oui,
est
vert,
elle sort d'écœurant.
Salut, René.
Tes verres sont écœurants, René. Voilà, Simon.
C'est qui?
C'est le propriétaire.
Le propriétaire de...
Il brasse ça encore, il brasse.
Oui, oui.
Il participe pour ça, puis il brasse aussi.
Il brasse, il vient de rasser. C'est quoi la bière qu'on buvait, M. Lacroix, au dernier show? C'était-tu la Talbot?
Oui, la Talbot, oui.
Émilie, tes commentaires.
L'alcool va, mon père.
Allez-y.
Eh bien, voyons. Mais tu prends de la place? Ah, c'est bien surette, là.
C'est surette, hein?
Mais moi, j'aime bien ça. Je vais être actif. C'est laquelle, celle-là? C'est... Ah oui.
Cassé,
c'est mûr.
Oui.
Ça sent surette.
Il y avait une question de base, là.
C'est bien bon. Il y avait tellement hâte, en fait.
Oui, vraiment. C'est vraiment le fun.
5.7 d'alcool.
Exactement.
Ouais,
très bien.
Ah! Caro, c'est
quoi
ton genre?
Mais non, c'est juste qu'elle m'a pris par surprise.
Ouais.
Et puis ouais. J'ai de la salive dans l'air. Tu vas t'habituer après une coupe de gorgée, ça va être moins pire.
Voilà.
Mais moi, je trouve ça le fun parce que je trouve que souvent, quand il y a de la du cassis, moi, ça, je trouve que ça tire beaucoup sur la canneberge, souvent.
Oui.
Là, j'ai pas cette impression-là. Puis la mûre, tu sais, le côté âpre des noyaux, là, ça, je le sens pas aussi. Puis ça, c'est deux win-win pour moi. Là, je vais peut-être m'habituer. Là, je trouve qu'elle surette pas mal.
Peut-être un peu plus froid.
Après,
ça atténue
oui,
le côté.
Probablement.
Moi, je pensais que c'était température pièce. Je connais pas.
Ben, moi, je trouve ça le fun que ça soit température pièce.
Mais c'est bon aussi. Ouais, c'est ça. Tu découvres. Puis c'est pas une IPA non plus. Fait que ça va.
Non.
Et voilà. Bon, ben, c'est une autre réussite, mon
ouais,
cher René.
Ouais, ouais. Yes.
Toujours est-il que c'est un podcast de musique, donc nous allons commencer. Et puis, mais on s'attendait, de toute façon,
on
c'était...
à l'autre ici, plus tard, là.
Ouais.
Après celle-ci, ça est au bleuet.
On s'attendait, de toute façon, à cette espèce de camaraderie. Donc, c'est pour ça qu'on avait pris soin d'enlever notre segment de l'oreille chronique.
Ouais.
Qui était quoi, donc?
Un album qui sortait, qui était tout chaud.
Un album qui sortait, qui était tout chaud.
Tout chaud, qui venait juste de sortir.
Mais
on en
pas
parlait, on a décortiqué.
Voilà. Donc, on passe à l'autre segment. Ça va vite, hein?
Oui, ouais, ça va vite.
L'autre segment qui est l'oreille chronique. Qu'est-ce que c'est que l'oreille chronique, mon cher monsieur? Il a dit que la croûte.
L'oreille chronique, c'est un album que. Ben, ça va être Nitran, qui vous David, c'est pour les intimes, hein, qui va nous parler d'un album.
Aussi. Hein? On est deux qui vont nous parler d'un album.
Oui, c'est vrai aussi.
Les albums qui leur tiennent à cœur.
Les
albums
à cœur qui les ont marqués, qui vont toujours écouter jusqu'à la fin des temps.
jusqu'à la fin des temps?
Ouais. Probablement,
oui. Ouais. Parce que David nous a emmené I Am, l'école du micro d'argent, sorti en 97. Mm-hmm. L'album a 22 ans maintenant aujourd'hui.
C'est fou!
Puis je l'écoutais tantôt avant de revenir ici, on le réécoutait, puis ça vieillit pas.
Non, ça vieillit pas.
C'est incroyable.
Toujours bon. Ouais, c'est toujours bon.
Donc pourquoi tu l'as emmené toi ce disque-là? Ben oui, parce que ça, c'est toujours bon, mais quand même.
Ben j'aurais pu donner plein des albums, mais pour moi en tant que fan de hip-hop, quand c'est sorti, pour moi la Terre a arrêté de tourner, je m'en rappelle. Puis l'impact que cet album-là a eu sur la culture, sur la musique rap, la culture hip-hop est indéniable. Puis même si j'avais à dire toute langue confondue, là, je le mettrais dans les top 5.
Ah oui?
Ouais, avec Nas, Illmatic ou
mais je pense Chronic qu'il fait partie, Dr. Dre. Je pense.
Pour moi, c'est dans les top 5 des meilleurs albums
de l'histoire. Mais je pense pas juste pour toi. Dans l'histoire, mettons, rap mondial ou anglophone, francophone, peu importe.
Ouais.
Mais je pense qu'il est listé entre ces gens-là.
Ouais, je trouve qu'il... puis comme tu dis, il vieillit bien. Ils ont apporté quelque chose de... Tu sais, quand c'est sorti, on dirait que ça a changé la manière de... Ça a shifté les rappeurs aussi, tout le monde. Ça a influencé énormément d'artistes.
Totalement. Est-ce que tu te rappelles à l'époque, en 97?
Je me rappelle quand j'avais acheté l'album, j'étais allé visiter ma famille au Saguenay, j'étais à la ville de la Baie, je pense, là, il y a un centre d'achat. Ah tu sais,
ouais?
Quand tu te rappelles où t'as acheté l'album,
ouais.
Tu sais que ça t'a marqué.
Oui, oui.
Puis, tu sais, c'était un album que j'écoutais constamment, là, puis je dissectais les paroles, tu sais, là.
Tu l'avais acheté en cassette à l'époque?
Non, je l'avais acheté en CD.
Il y avait les paroles avec le CD?
Il y avait les paroles dans le CD.
Mais tu pouvais pas le mettre dans ton Walkman. Ouais. C'est ça?
Ah!
Non, parce qu'il y a un album, tu sais. Ouais, parce qu'il y a un album, c'est dans mon Walkman. C'est ça. Quand tu m'as fait tellement rire que tu reculais tes cassettes avec ton stylo.
Ouais. Mais en fait, oui, parce que j'ai eu des périodes où je faisais des mixtapes avec des cassettes, puis j'avais des CD. J'avais mon boombox, je mettais des fait que je mettais mes chansons préférées de CD sur mes cassettes, puis il y avait des chansons d'I.M. bien sûr.
Mm-hmm.
Puis ouais c'est un album qui c'est ça que je connais les tu sais c'est des gens tu connais les paroles par cœur. Tu sais tu peux aller partout puis tu connais tout le temps quelqu'un dans la salle qui pour une raison ou une autre tu le connais pas mais il va connaître la chanson Petit Frère.
Ouais.
Puis là vous allez avoir un bonding sur le rap français, tu sais, fait que I.M. c'est ça, c'est
mais c'est un album qui a été certifié disque d'or quasiment le soir de sa sortie.
Okay, ouais.
Disque platine après ça la même année.
Ouais.
Avec 300 000 exemplaires vendus. Et 8 ans après sa sortie, l'album a franchi les 1 million d'exemplaires quand même vendus. Donc disque diamant, qu'ils disent.
Ouais.
Et puis là, on est rendu peut-être à 1 600 000, puis ça continue, là, bien entendu. Qui a été produced par Imhotep.
Ouais.
Qui était là, beaucoup influencé par les Wu-Tang. D'ailleurs, il y avait RZA aussi, je pense, qui était en arrière.
Non, mais c'est ça l'affaire que je voulais dire.
Je sais pas si c'est vrai, quelqu'un m'avait dit ça, mais je sais pas si RZA était derrière, mais il y avait un featuring avec un des membres affiliés à Wu-Tang qui était.
Sons of Man.
Sons of Man.
Ouais, c'est ça la.
Tune, quelque chose
mais, non, mais c'est. Non, c'est ouais, c'est ça.
C'est ouais, ça, ouais, la saga.
C'est que Wu-Tang était tellement puissant que ça avait influencé tous les réalisateurs. Fait que là, ça sonnait ça, mais ils ont pris Sons of Man, qui était parce que la famille Wu-Tang était comme très étalée. Puis le monde, ils ont identifié tout de suite Wu-Tang parce qu'ils le disent dans la tune, tu sais. Sons of Man, Royal Fan, Wu-Tang. Fait que le monde a dit, ah, ils sont avec Wu-Tang, mais en fait, c'était pas Wu-Tang. Ouais, ça s'est tellement bien vendu à cause de
mais
ça.
Mais je pense que, moi, je pense que c'était calculé.
Oui.
Okay? Au même titre que Mami, tout le monde, ils ont pensé, c'est pas sur la saga, par exemple, c'est sur un.
Côté obscur,
tout le monde pensait que c'était des samples de Star Wars, mais
oui, c'est ça.
En aucun cas, non?
Le début?
Non?
Oui, il y a les voix.
Non, mais les échantillons musicales, c'est ça, mais ils ont réussi à recréer quand même cette ambiance-là. Fait que je pense que cet album-là a été extrêmement bien calculé, puis c'est peut-être pour ça qu'il traverse.
C'est sûr que c'était comme calqué un peu sur Wu-Tang, la formule.
Ouais. La même année, c'était Wu-Tang Forever qui était sorti aussi.
Ouais.
La même année.
Wow, Forever, ça aussi, ça
me là, c'est une belle année.
Triumph, je la connaissais par cœur. Ouais. C'était vraiment fou.
Mais moi, je me rappelle quand même quand c'est sorti. C'est le genre d'album qui nous ont donné le goût, en tout cas à moi, parce que lui, il était plus hip-hop américain ben avant. Mais moi, c'est ce qui m'a emmené à sortir mon micro. C'est cet album-là, quand même, qui m'a poussé à sortir mon micro.
L'école du micro d'argent.
Ouais, vraiment, puis sortir des rimes, puis. Vous savez, M. Détrac, moi, on a quand même un album. de hip-hop aussi.
Okay.
Puis, ben, c'est vraiment I Am qui a initié la pas.
Parenthèse, il y a une rumeur, j'ai entendu dire, parce qu'ils ont enregistré l'album à New York. Une grosse partie a été faite à New York. il existerait un coffret de l'album avec des chansons pendant la création qui n'ont jamais été sorties avec des featuring, qui n'ont jamais été sorties dans un coffret d'or enfoui dans l'édifice où ça aurait été enregistré, hein? Dans un sous-sol. Ouais. Et il y aurait une chasse au trésor à faire et à trouver. Et ça vaudrait énormément d'argent, en fait.
Sérieux?
Ouais, quelqu'un m'a dit ça. Je sais pas si c'est vrai, mais...
Ben, ça se peut que je t'en parle tantôt.
Oh! Tu l'as trouvé?
Ok.
Je me souviens que tout le monde, quand c'est sorti, ouais. Toutes les c'est pour ça que je te demandais tantôt, mais ouais. Tu l'as peut-être pas entendu, mais je vais te la répéter. Ouais. Est-ce que tu rappais en 97?
Non.
T'avais pas commencé?
Non, je rappais pas.
Mais t'écoutais quand même ce qui se passait
à Montréal? J'étais un fan de hip-hop fini. Ouais. Moi, je faisais plus du b-boy, j'étais plus dans la scène break.
Ah, okay.
Mais j'étais un gros fan de hip-hop là, depuis que j'ai 11 ans. Mais j'ai commencé à rapper autour de 16 ans. C'était plus en 2001 que j'ai commencé à rapper.
Okay. Ouais.
Est-ce que tu es allé au show gratuit de 20 ans?
Non, j'ai pas eu la chance.
C'est pas allé?
Heureusement, non. J'aurais aimé ça.
C'était loadé.
C'était loadé. Je me rappelle, moi,
faisait chaud cette journée.
Ouais, faisait chaud, même.
Mais c'est parce que moi, ma fille, elle avait peut-être 5-6 mois. Je suis avec ma blonde, on va pas aller là.
Non, c'était pas de bonne idée. C'était pas
ça. Mais à l'époque, tout le monde s'était mis à rapper. Merci pour le lien. C'était vraiment comme jumpé 27 ans plus tard. Je vais essayer de revenir parce que moi, j'étais rendu. Mais c'est parce que tout le monde m'a demandé de commencer à prendre le micro, puis rapper en Marseillais, puis il venait de Montréal.
Ben ouais, il y a ça aussi.
Tu te souviens quand même.
Ouais, on a eu cette phase-là.
Ouais. C'est fucké, là.
Mais heureusement qu'au Québec, après, il y a eu les Ils vont crever, Sans pression, qui
ont
pour moi.
Sauvé la donne.
Si j'aurais pu donner un autre album. Pour moi, c'est l'accent grave de Ils vont crever.
Oh, nice! Nice, j'ai bien aimé ça.
C'est un de mes albums rap-cap préférés.
Okay.
Puis qui m'a emmené, qui m'a donné goût après de rapper en joual. Puis de dire, OK, ça peut être cool rapper.
Mais en...
avec
notre... Qu'est-ce qui est cool avec Ils vont crever? Puis sérieusement, si jamais Ils vont crever, écoute, je veux pas le blaster, mais son vocabulaire est extrêmement limité.
Ouais.
Puis il a réussi à sortir un album. Ouais. Complet, où ce qu'on bang les ailes, on est vraiment dedans. Puis le gars, il y a trois mots dans le dictionnaire.
T'as raison.
Puis il a réussi à faire de quoi de vraiment franchement hip-hop, vraiment vrai, puis sérieusement. Fait que dans le fond, c'est une qualité.
Gros shout-out
à lui, à cause de ça, mais il y avait pas de nom. Aussi que j'ai moins de shout-out, par exemple, c'est quand il avait fait un featuring avec, le gros mongol, là.
Le gros mongol, bravo, hein.
On va faire attention à qui on parle. Moi, je suis de
Non.
Comme,
le gros mongol.
Voyons donc. Okay.
Qui ça?
Pathétique.
Ah, c'est pathétique.
Oh my god.
Ils vont crever. Puis c'était qui l'autre que j'aimais bien, le Bac à Wouloulou, là?
Un étrange de J. Merci beaucoup.
Un étrange de J. Ils vont crever. Ils étaient revenus. Un comeback après 20 ans. On attendait eux autres. Puis ils s'associaient avec Sir Pathétique. Vraiment triste. Avec l'école du micro-l'argent, parce que bien entendu, c'est de ça qu'on parle, puis on va conclure quand même. Mais moi, j'ai connu Freeman avec cet album-là.
Ouais,
Freeman qui avait sorti peut-être un an après l'album Le Palais de Justice, que j'avais adoré.
Tous les albums solo qui ont suivi après, ils étaient tous excellents.
Quelle belle scène qui a déferlé ici au Québec, qui a influencé beaucoup. Donc, comme je vous dis tantôt, je l'écoutais avec Virginie. On avait été voir le show, nous autres, il y a 2 ans. Puis Virginie n'y connaissait rien en IAM. Puis on a passé franchement une chouette soirée. Effectivement, puis on a vraiment trippé. Donc, à quel point ce groupe-là est important. Peut-être 2 tunes que j'aime moins dans le pacing chez le Mac. Puis c'est personnel, mais je trouve pas qu'Akhenaton. Puis ils ont une sexualité, mettons. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, quand il se la joue un petit peu, j'ai pris telle fille.
Le charisme, tu parles.
Mais c'est les trips, tu sais. Tu peux le faire dans le rap, c'est cool, ça passe.
Non, ça passe pas que ça.
Non, c'est ça. Elle voulait donner son corps avant son nom.
Oui, il y a celle-là aussi.
Moi, je l'adorais.
Ces deux-là. Oui. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, la manière, je sais pas. J'ai trouvé déjà.
J'y avais jamais pensé comme ça.
Mais c'est ces deux-là. Sinon, après ça, l'enfer. Un bon son brut pour les truands. Quand tu allais, on revenait. Là, je m'excuse, ça me donne encore des frissons. Ça fait comme 22 ans, comme je le disais tantôt, ça existait. Quel bon rap. Il était jeune quand même à l'époque. Une fine plume. Difficile à imiter. Voilà.
Il était même pas tant dans les multisyllabiques, dans les patterns. Non. C'était juste une belle poésie avec des flots.
Direct. C'était une histoire à raconter.
histoires.
Il n'y a pas d'essai littéraire, mettons, là-dedans.
Mais il y a quelque chose de magique sur cet album.
Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Et puis, effectivement, ceux qui ne connaissent pas non plus Détraque, allez voir Détraque, parce que, sincèrement, il y a des influences. Hein?
Ouais.
Ça paraît.
Ouais, ouais.
Ça paraît. On va revenir sur son album plus tard. Parce que là, sur le même, effectivement, on va aller maintenant avec Émilie Leclerc. Émilie Leclerc, je lui ai demandé quel album était pour nous apporter. Puis elle faisait « Ah, je sais pas trop. Moi, je suis cinéma, voyez-vous. » Et puis, non, c'est vrai, elle a dit ça un petit peu. Mais elle a nommé quand même quelques autres titres. Il y avait là-dedans, il y avait quoi? Il y avait
un album de Madonna.
Il y avait quand même une couple d'affaires. Qu'est-ce que tu m'as donné?
Ouais, ben, je suis pas très loin, mélomane.
T'as jamais mis d'affaires.
Ça fait 7 ans que je suis avec mon copain, puis c'est comme lui, c'est un mélomane là, d'une précision chirurgicale, ma foi. Fait que du coup, c'est tout le temps lui qui met la musique, puis moi, je follow the flow.
Okay.
Là, mm-hmm. Pour bien parler français, René serait content de m'entendre.
Fait que mais c'est lui qu'il fallait inviter.
C'est, ouais.
Ah ouais?
Côté musique, pour vrai!
Voilà, mais elle s'est arrêtée sur un nom, puis j'ai fait, ben, on va s'arrêter là-dessus, nous autres aussi.
Ouais.
Parce que c'est pas un album en particulier, mais c'est quand même un sujet chaud, on parle ici. Son idole, c'est Michael Jackson, mesdames et messieurs.
Et voilà.
Est-ce que c'est encore son idole? Ouais. Parce que cette femme a vu le documentaire Leaving Neverland.
Je ne l'ai pas vu.
Ah, tu ne l'as pas
je
vu?
Je ne l'ai pas vu, mais okay, j'ai lu des articles et ma foi.
Oui.
Ouais.
Parce que là, tu semblais ambigu, là.
Ben, je suis ambigu. Écoute, ben, en fait, il y a des choses que j'ai enlevées, là, depuis aussi loin que je me souvienne. Je m'appelle Mim Jackson sur Facebook.
C'est vrai?
C'est enlevé.
Ah, ouais, j'avais dit ça. Ah, ouais.
C'est maintenant juste Émilie Leclerc.
Ouais,
okay. Ça a longtemps été mon.
J'avais même pas fait le lien.
Ouais, parce que, comme, genre, c'est ça. Où je me situe, c'est que j'en écoute encore dans mon salon, puis je danse. Genre, je l'ai fait la semaine passée, mais c'est ça, je m'affiche plus comme. Parce qu'avant, tu sais, c'est ça, il y en a que c'est RuPaul Drag Race, puis moi c'est Michael Jackson. Tu sais, au secondaire.
C'est quoi,
ouais, là, j'ai... Ouais, c'est, ça.
C'est quoi avec le Drag Race?
Ben, c'est parce qu'il est flamboyant, c'est juste pour ça que je disais
ça.
Ouais,
okay.
Mais ouais, non, écoute, c'était vraiment. J'avais jamais eu d'album là, que j'avais trippé, ou de groupe, ou de chanteur, puis. Quand j'ai découvert Michael Jackson, j'étais en secondaire 5 et ma foi, c'est l'album Bad que j'ai découvert en premier. J'ai viré sur le top, là. Tu sais, c'était les balbutiements que j'avais accès à Internet sur une base régulière. Je faisais des montages de moi puis lui. Tu sais, je prenais une photo de lui. Tapis rouge!
Voyons,
une photo de moi puis je nous collais. Oh my god!
Hey, s'il était aux femmes, t'aurais clairement écouté Dumbo à minuit, toi aussi. Hey,
wow.
Boy, t'as
embarqué
dans son
truc. Ouais, non, écoute, never.
T'as embarqué dans son
truc. Écoute, puis quand il est mort, j'ai pleuré parce que je l'avais jamais vu en spectacle et je le verrai jamais.
Peut-être en hologramme, mais.
Peut-être
plus là.
Non. Ouais.
Ouais.
Mais c'est ce qui amène à cette espèce de souvent on dit ah, tu sais comme l'autre là qui avait que tabassé sa femme là, la comédienne Marie Trintignant.
Ouais, Noir Désir.
Ouais, Bertrand Cantat.
Ouais, il faisait du théâtre à Montréal, là, 3-4 ans. Il était comédien lui aussi, puis là, ça avait créé un tollé. Qu'est-ce
avec
qu'on fait?
Est-ce
qu'on...
Mais par
oui,
contre, mais parce que le problème avec ça, par contre, c'est que la pièce de Choisy, je me rappelle plus laquelle, c'était comme un hommage aux femmes. En fait, c'est que c'est un peu.
Les babines suivent pas les bottines.
Ouais, tu sais, c'est une pièce qui rend hommage aux femmes, donc il y avait un côté féministe, et là, le metteur en scène invite Bertrand Cantat qui a comme tué une femme, tu sais.
Mais ça avait quand même suscité cette discussion-là. C'est est-ce que sa musique, on fait la différence, tout ça, puis il y en a plein maintenant qui sont ressortis. Hein, les bourgeons pervers après la neige sont ressortis. Mm-hmm. Après, qu'est-ce qu'on fait? On aime l'œuvre ou pas? Je sais pas, mais est-ce que. Je sais pas, monsieur Lecourte, qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas.
Moi, j'ai ça. J'ai chez nous.
Ouais.
J'ai lu ça aussi.
Off the Wall, c'est-tu son premier
solo? Son premier solo, ouais. Moi, je sais, j'étais dans mon char quand j'ai appris qu'il était mort. Puis je me souviens, je me suis demandé. Aïe, aïe, je mange-tu du spag pour souper?
Mais effectivement, là.
Tu vas pas le casser à soir?
Non, je le casserai pas, sinon, parce que c'est ça, je pense, le but. C'est que je l'ai eu avant. Moi, je pense que ce serait ça mon point de vue.
Ouais.
Avant de le savoir.
Je l'avais acheté.
Tu le sais.
Ouais. Ouais.
Mais je comprends le dilemme moral.
C'est tellement live comme réaction. C'est comme.
On
dirait qu'on est comme choqué live.
Parce que moi, c'est tellement épineux. Puis je sais pas, moi aussi, j'aime tellement. Ça a tellement bercé. J'ai tellement de souvenirs associés à ça qu'on dirait que je peux pas flasher tout ça.
Mais ça s'endosse pas nécessairement sa philosophie de vie. C'est juste que son travail pour toi a une répercussion. Puis fait partie de ton passé. C'est comme mettre une croix sur toutes les émotions. Toutes les pensées que tu as eues. Puis c'est là que le dilemme est vraiment pour tout le monde. Parce que.
Est-ce que pour René, là,
c'était le King of Pop qui a percé la jeunesse et les souvenirs de bien du monde.
Mais moi, je me dis que cet album-là, Off the Wall, Macaulay Culkin n'était pas encore né. Donc, peut-être qu'il avait peut-être pas réussi à sniffer aucun anus d'enfant. Je sais pas. Mais, tu sais, je veux dire, Don't Stop Till You Get Enough. Comment sur cette track-là?
Moi, c'est dans Thriller, me semble. C'est PYT. Puis le refrain, c'est Love You Pretty Young Thing.
C'est grave, c'est grave, solide.
C'est choquant là, quand tu.
Ouais, c'est.
Ouais.
On n'est pas tout seul à y avoir
pensé. Parce que aussi, derrière Michael Jackson, c'est des tonnes de personnes qui ont travaillé là-dessus. C'est
Quincy Jones.
C'est les musiciens qui ont fait les riffs, je veux dire. Ouais, c'est dur de dire.
René
Michael Jackson, comme tu renies une
communauté.
C'est vrai.
C'est gros. Après ça, l'endossement par après, quand tu as l'information, justement.
Le même truc avec.
Tu comprends que d'acheter de la nouvelle merch ou. Exactement, c'est encore vivant et qui ferait d'autres affaires.
Ouais, c'est ça.
Je suis pas sûre que j'embarquerais.
C'est ça, c'est le après. Tu sais, les artistes qui s'associeraient à refaire des remixes des vieilles tunes de Jackson ou whatever. Parce que t'es comme. Ouvrir un nombre d'artistes qui
disent
pas moins choisir autre chose. Tu sais, comme ça, ça devient un peu.
Parce qu'en même temps, effectivement, parce que même en plus, c'est pas lui qui écrivait ses chansons.
C'est ça, c'est un interprète.
OK, les amis, c'est ce qui conclut le récordé. Nous autres, on va aller voir l'animato qui a peut-être son commentaire sur la discussion sur Michael Jackson. On revient tout de suite après.
Hey, salut, boys! Hey, je me demandais pourquoi qu'on jase contre Jackson, c'est un site, là, tu sais, Michael Jackson. Le gars, il a fait des bonnes tunes, tu sais, pis tout, il est au palmarès, c'est Beat It, Trailer. Tout, là, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, en tout cas, c'était pas bien, mais à ça, c'est sûr, la musique, moi, je m'en sacre. J'ai du poids dans les oreilles, j'entends rien. En tout cas, moi, vous laissez, là, mais. J'ai Martin. Hey, Martin, as-tu fini ton bain? Ouais. On va aller se coucher ensemble, là, pis on va écouter. Maman, j'ai raté l'avion. C'est un bon petit film, là, même.
Nous sommes rendus au moment du segment de Caro, le croque-note, comme vous entendez ici, la petite musique. Ma chère Caro, bien contente de t'avoir parmi nous, encore une fois. De quoi tu nous parles ce soir?
Aujourd'hui, ben, tu vois, ma chronique, je l'ai nommée Expensive Bitches.
Ah,
ouais,
okay.
Ça va bien.
Ça va. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler des albums vinyles ou CD qui se sont vendus le plus cher ever.
Ever.
Ever. Là, il y avait une liste de comme 15. Je me suis dit.
Juste 15?
Ben là, il dit par ordre. Tu peux toutes les classer par ordre. Mais Gamelin, je me suis dit, on est pressé, on a 10 minutes, on va faire ce qu'on peut. J'en ai pris 6. OK.
6 quand même.
Donc, parce que j'ai essayé de faire des top 5 et des top 10.
Top 6.
Ouais, je sais. Mais je sais que c'est aussi on edge. Puis là, les gens qui veulent pas être sûrs. Comme le populaire font aussi ça. Fait que là, c'est comme rendu être populaire d'être edge. Fait que là, ça me fait capoter. Ben, reste, tu comprends.
Ouais,
je commence à un moment donné. Ouais, fait que je me
suis dit. Je sais pas pourquoi.
Fait que numéro 6, l'album de Beatles, Yesterday and Today. En fait, c'est le artwork de l'album qui a fait jaser pas mal. En fait, sur les premières copies du vinyle, on pouvait voir Paul, John, George et Ringo entourés de. Bébé en plastique avec des petits bouts de viande médium saignant. La pochette s'est même fait donner le petit surnom cute de A Butcher's Cover. Mm-hmm. Et bon, moi j'ai trouvé ça un petit peu élevé pour un album qui commence avec la toune Baby You Can Drive My Car. C'est un peu élevé.
C'est une histoire de conspiration là-dessus.
Oui, non, mais effectivement, moi tout ça résonne.
Ouais, ben si tu es rendu là, ça peut être une autre affaire, genre sur les bitons.
On va faire un autre podcast.
Hashtag
c'est ça. Vas-y. Anyway, la photo était tellement malaisante qu'elle a été remplacée par une autre image montrant Paul, John, George et Ringo assis dessus et dedans un gros coffre bleu qu'on s'en calisse. Ça, c'était la nouvelle pochette. Et c'est pendant une enchère.
J'ai jamais vu une belle pochette.
En 2013, une copie d'album avec le Butcher's Cover s'est vendue pour 125 000 $.
Wow.
En faisant, par le fait même, un des vinyles les plus dispendieux du monde.
Ah, ouais. C'est lui le top 1, mettons.
On est à numéro 6, là.
C'est ça, imagine.
Ah, numéro 6.
Okay. Si quelqu'un est là chez eux.
Ouais. Oui, édition, la première édition, le premier printing, wow. Là, ouais. Pour la pochette, là, ouais, ça vaut une fortune, cette histoire-là. Fait que, checker pour les petits bouts de bébé à maison, hein, si vous en avez.
Ouais.
Ça va le gérer, voilà. Et cinquième position, on a l'album de John Lennon et Yoko Ono, Double Fantasy. Désolé, moi, c'est vraiment pas mon genre, Yoko. Ben de la misère.
Ok, t'as failli vomir.
Ouais, c'était. C'est, elle me trouble, cette femme-là.
Ah, ouais.
Ah, elle me. Comme dans le cauchemar, là. Ouais, c'est ça.
Ouais, la cercle, tu sais, la fille de la cercle, là.
Son aura me turn pas, pas en tout.
C'est la petite fille dans le cercle.
Shit happens, ceux qui aiment ça, tant mieux pour vous autres. Moi, je sais pas cette horaire-là. Cette oreille-là qui me possède. Ouais. Ok, là, c'est bon, là, ok, j'aime autre chose aussi, bon.
Vas-y, Caro.
Donc, pour cet album, c'est pas vraiment la pochette, ni une toune inédite qui a fait monter la valeur du vinyle. C'est plus les circonstances qui entourent la signature de John Lennon sur cet album en particulier. En fait, ce serait l'album que John aurait signé quelques heures avant sa mort, le 8 décembre 1980. Okay. En fait, c'est la dernière fois qu'il a posé sa signature sur quelconque objet que ce soit. Et c'est pour ça que les prix ont monté en flèche, atteignant 150 000 $.
C'est fou.
Une signature. C'est même pas une copie inédite ou quoi que ce soit. C'est
un album régulier. Il y a des tracks qui ont signé notre copie, par contre.
Ouais. Watch out.
Watch out.
Watch out.
Check-toi la nuque. Est-ce que
vous... Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de dire. Moi, je fais pas attention sur le retour.
On poursuit avec le numéro 4. Les Beatles. Encore.
Ah ouais, encore.
Une petite redondance ici. Avec l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui est. Là, je pense qu'on commence à comprendre que les Beatles, ils ont un pattern, des albums qui valent cher. Fait que jamais tu possèdes une copie originale d'un de leurs albums. Tu peux allègrement dépenser les épargnes études de tes deux plus jeunes pour investir dans un projet louche de condo luxueux sur le bord d'une plage quelque part en Colombie, parce que, même si c'est une crosse, au pire, t'as juste à vendre ton album original, puis hop, oh, ni vu ni connu. Anyway, si t'as pas de fonds d'études, tes kids, inquiète pas, tu vas pouvoir toujours les envoyer à l'UQAM. La copie de Sgt. Pepper's Lonely Heart, signée par les 4 légendes, s'est vendue à, je vous laisse guesser combien?
250.
290 000 pour les 4 signatures. Mm. On parle d'un 15 secondes là, pour signer. C'est complètement débile. Mm. Ensuite,
en fait, dans le fond, c'est celle de Ringo, elle valait sûrement moins cher, mais...
Ben, mais pas, si elle n'avait pas signé, on t'appelle 300 000, c'est ça l'affaire.
C'est pas gentil.
En troisième position, on change de répertoire.
Je vais te faire une parenthèse.
Vas-y.
Je vais te laisser le temps, de toute façon, de te donner, mais c'est parce que tantôt, j'écoutais Metallica en performance, puis je trouve, je sais pas c'est quoi le nom du drummer, mais c'est plus pourri.
Lars
Ouais, pis il est dégueulasse. Pis Ringo faisait la job, tu sais. Moi, je fais la joke de Ringo, il est pas bon, sa signature vaut rien. Mais il était franchement meilleur que qui?
Lars Ulrich.
Pourrirait. Désolé,
c'est
rendu
une caricature de lui-même.
Non, mais il est pas bon. Excusez-moi.
Ça va, ça va. Dans troisième position, dans le répertoire, on y va avec le king de la pop, Elvis Presley. Ouais.
Ah oui.
Donc, avec son album My Happiness, en fait, on parle ici de la première copie. De l'enregistrement test de l'album.
Impossible à avoir, mais les personnes.
Copie qui s'est vendue aux enchères en 2015 pour quelques peanuts étant 300 000 $. Tu sais, une petite semaine de job. Là.
Oui.
C'est nul autre que Jack White, ben qui est l'heureux propriétaire de l'album.
Félicitations, Jack White.
Bravo, Jack.
Monsieur White est un passionné de musique, puis il a même sa propre compagnie de production qui s'appelle Third Man, qui se spécialise dans l'enregistrement du son vintage, justement. Oui. Donc, White s'est servi de l'album original pour en faire une édition limitée, copie conforme tant au son qu'à l'emballage. La pochette du vinyle est un papier brun plein. White s'explique en disant que c'est exactement ce qu'Elvis aurait reçu en sortant des studios de Sun Records. Donc, on y va sur le legit.
Je sais pas si Elvis, mais je suis content que c'est Jack qui l'a.
Ouais.
Quand même, hein?
Ouais, non, c'est cool.
Quel homme, c'est Jack.
Le papier brun, mais il paraît qu'une version, c'était le Stamp Stenberg dessus, ça vaut encore plus cher.
Je sais pas. Dominion, parce que lui, c'est la copie test, c'est la seule qui existe. Fait que, ça va être une autre édition.
Mais il y a l'argent pour se le permettre.
Hein. Ah non, c'est incroyable. Le 300 000 $, on s'entend que.
Je pensais, il y a combien de copies? Est-ce que ça tu l'as su?
Il y a une seule copie, c'est Jack White qui l'a lu. Il a fait un rip-off, mais avec le son exact de la copie originale. Mais il n'en existe qu'une et c'est White qui l'a.
Incroyable.
Donc, ouais, c'est assez fou. Donc, deuxième position, grosse surprise, on retourne avec les Beatles.
Ah, ben non.
Je sais, c'est incroyable. C'est complètement fou. L'album
album. En fait, le White Album, quand t'es dans le band, c'est souvent plus facile d'avoir accès à la première copie officielle de ton album. Puis ça, Ringo l'avait catché assez vite. En tout cas, il a catché ça plus vite que de savoir jouer du drum. Là.
Oh.
anyway, Ringo avait en sa possession la copie 00001 du White Album. Puis un beau jour, il s'est dit...
Je vais la garder.
Il me semble que j'aurais le goût d'un trio junior au poulet, mais j'aime pas de change. Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu vends ton album! Bon, voilà. Donc, il a trouvé le preneur pour la modique somme de... Attention, j'ai failli en perdre des rotules.
400 000.
790 000 piastres! Ouais. Mais là, la caissière du McDo, elle a demandé s'il voulait une grosse frite dans son trio. Fait que, il a aussi vendu son famous Ludwig drum kit pour une Texan, genre 2,2 millions. Bon, l'histoire dit pas s'il a fait un McDo, Manon Ronald McDonald, mais bon.
Moi, j'aurais fait ça.
Ça, c'est des informations que j'ai pas trouvées sur le net. Bon.
Hein, Steph?
Et mon numéro 1, je t'ai contente que t'en parles justement, c'est l'album de Wu-Tang qui est Once Upon a Time in Shaolin.
Ah, qui a été acheté par le gars de la pharmaceutique.
Ouais, c'est ça qui. Si t'as jamais entendu parler de cet album-là, lève la tête, ça se peut que tu sois en dessous d'une roche. C'est l'album qui s'est vendu le plus cher fucking ever de l'histoire. Puis, l'histoire qui l'accompagne est encore plus épique. Donc, Wu-Tang a délibérément produit une seule et unique copie de Once Upon a Time in Shaolin, mais pas juste de même parce qu'il y avait genre une lasagne dans le four puis il n'y avait pas le temps d'en faire plus. Là. Non. L'album vient avec un contrat qui stipule que l'acheteur ne peut pas tenter de faire de l'argent avec l'album, donc de ne pas le vendre ou le louer ou whatever pour faire des sous avec, durant une durée de 100 ans. Mais... Mm-hmm. Pouvait diffuser l'album pour gratuit si ça y tente. Là, jusqu'à maintenant, c'est pas arrivé parce que ça a donné que c'est une ordure d'être humain qui a acheté l'album. Martin Shkreli, c'est le dos qui a acheté le médicament qui traite le sida puis qui a boosté les prix de 5000%. Mm-hmm. Donc, pas genre de voisin qui t'offre de prendre son courrier quand il est en vacances, mettons. Hein? Tu le laisses dans sa marque, tu sais. Fait que c'est ça. Anyway, ce gars-là avait 2 millions de lousses. No shit. Puis il s'est acheté l'album de Wu-Tang. Pas besoin de te dire que les fans étaient en beau joie le vert, et là je parle pas juste des cinématiques. Décidé, c'est tout le monde était frustré. Puis il a pas juste décidé d'être le petit conquier, il a juste décidé de pas release l'album, genre fuck off. Fun fact, le contrat stipulait aussi que l'acheteur consentait qu'à n'importe quel moment, pendant la durée du contrat, le vendeur, Wu-Tang, pouvait légalement prévoir une tentative de kidnapping ou de vol pour récupérer l'album. Si la tentative était fructueuse, tous les droits légaux revenaient alors à Wu-Tang. Et la tentative de kidnapping pouvait être effectuée par n'importe quel membre actif de Wu-Tang ou Bill Murray. Et ce, sans aucune répercussion légale. Mais malheureusement, on a pas pu assister au reste du siècle parce que en mars 2018, Martin Shkreli a été reconnu coupable de fraude et était condamné à faire de la prison et à se faire saisir des biens pour une valeur de 7 millions de dollars. Dans ses biens.
Non.
Parfait. Se trouvait l'album inédit de Once Upon a Time in Shaolin qui fait maintenant partie des biens détenus par le gouvernement fédéral américain. L'album aurait plus de valeur aujourd'hui parce qu'entre-temps, la légitimité de l'album aurait été remise en question et parce que ça serait peut-être même pas un album de Wu-Tang. Mais ça, les enfants, c'est une autre histoire. À soeur, à cette heure!
Mais il y a eu, il y avait eu des vidéos entre les membres de Wu-Tang puis Shrek en fait Shrek, c'est un ogre, hein, c'est Shrek où ce qu'ils se bitchaient, non? Ils se bitchaient ça avant
avant la finale. En 2016 il avait dit que si Trump était élu il allait release l'album, puis il avait commencé à faire des démarches, il avait fait une vidéo sur YouTube dans laquelle dans la track le background on pouvait entendre que c'était une tune de l'album. Mais après ça, quand il a commencé ses poursuites judiciaires, il a essayé de le vendre sur eBay. Le bid est monté jusqu'à 1 million, mais finalement, la vente ne s'est jamais conclue. Donc, il est resté comme pris avec l'album. Puis, par la suite, il y aurait des gens qui auraient juste... même Wu-Tang aurait dit que l'album n'avait jamais été certifié Wu-Tang. Fait que ça serait des collabs qui serait sur l'album.
Il y a eu, de, il y a eu deux ou trois tunes, je ne sais pas si tu as eu oui de ça, mais qui avait coulé de, à travers ce disque-là.
Je ne sais pas,
vous avez pu entendre Snippets, je pense. S-N-I-P-P-E-T-S.
Snippets, c'est des extraits.
Oui, c'est ça. L'extrait, puis c'est tout, mais ça serait...
Ça, c'était sur Discogs.
Comment?
Non, c'était pas nécessairement sur Discogs, ta recherche.
Discogs?
C'est parfait, c'était pas là. On va y aller tout de suite avec le segment. Non, je pensais que c'était là, Caro, c'est pas grave.
Tu voulais faire la légitimation de mes recherches?
Non, mais je pensais que c'est, ouais, c'était des albums sur Discogs qui se vendaient plus cher.
Non, non, non.
C'est parfait.
Discogs, c'est un site internet qui vend des vinyles.
Parfait, merci. Merci, voilà.
On va y aller maintenant avec le dernier. Ben oui, mais j'ai pas le temps, Janine. C'est le dernier segment qui est le 45 tours. Qu'est-ce que c'est que le 45 tours? C'est moi et M. Dick Lacroix qui allons faire une critique assez rapide de 6 albums. Et puis on fait thumbs up ou thumbs down suite à la première écoute de chaque album. Mm-hmm. Donc on n'a pas pris le temps vraiment de.
Ben
de
oui, quand même. Quand même. Oui.
Qu'est-ce qu'on voit, Mathilde? Avant qu'on continue.
Ouais, pourquoi pas, ouais.
Ben, ah, ouais, ben on va.
Vas-y, Caro.
Voilà, la Macera. Tantôt, c'était la Macera Cassis et Mur. Et là, maintenant, c'est la Bleuet.
C'est vrai, on est rendu là.
18 mois dans une barrique de. Je m'en souviens pas.
Un petit peu moins surette.
Mais ça doit être. Ben, je tenais peut-être à
ma préférence.
Chaîne
d'habitude. Ouais.
Ok. Ouais.
Est-ce qu'il y a une différence?
Moi,
je trouve qu'elle est moins surette.
Ben, moi, je trouve qu'elle est moins toute. Tu sais, comme elle est moins surette, moins fermière, le fruit sent moins. Et pour les papilles plus...
Mais est-ce que c'est pas parce que nos papilles ont été justement... Été
ben, peut-être qu'il aurait fallu faire le contraire.
Ah ouais?
Ouais.
Ah,
mais c'est ça, exactement.
Mais comme fruit, en tant que... Le fruit à la base, le bleuet est quand même plus doux.
Oui,
oui ben toujours donc, dans une bière, c'est dur à faire puncher du bleuet.
Voilà.
Pas mal plus que du cassis.
Je vous rappelle qu'on est un podcast de musique, donc on y va avec 45 tours, où on va critiquer Thumbs Up, Thumbs Down entre moi et M. Lacroix. Et on va commencer tout de suite avec le premier album qu'on critique ce soir, qui est le nouvel album des Chemical Brothers, l'album No Geography. Et puis, comme disait Jesse Fouch, un moment donné, quand il était venu à la part écouteur, parce qu'on faisait la critique du dernier album de Gorillaz, puis il nous avait dit, est-ce que ça peut être bon, peut-être, l'album, mais qui écoute ça de nos jours? Puis, en fait, il y avait plein de monde. On s'est rendu compte qu'il y avait encore plein de monde qui écoutait Gorillaz, mais il y avait quand même un point dans le sens que ces albums, à un moment donné, c'est Ben qui obtient à un moment donné une certaine heure de gloire, une certaine apogée. The Chemical Brothers ont été très actifs début 2000, mais... pourtant, ils le savent encore, mais est-ce que la foule les suit toujours? Parce que cet album-là ne semble pas au courant. C'est-à-dire que l'album pense que lui est encore au sommet. Cet album-là ne semble pas aigri par le temps qui passe. Je veux dire, ça roule au maximum.
Ouais.
Vraiment pas au courant, cet album-là, qui peut-être qu'il pointe plus. Autant pas au courant qu'un fans peut-être d'un band que je dirais Kiss the Anus of a Black Cat qui, oui non c'est un vrai band, c'est un groupe belge, donc embrasser le cul d'un chat noir, c'est sûr que lui n'est pas au courant que Chemical Brothers existe aussi, donc dans ce fabuleux monde de la musique, beaucoup de gens coexistent et ne le savent pas, donc cet album de Chemical Brothers ne le sait pas non plus. Parce que c'est un album qui est vraiment enjoué. Beaucoup de couleurs sont véhiculées à travers de ça. Je dirais même des couleurs d'été, des couleurs pastel.
Ouais.
Et puis lui, il s'amuse, ce disque-là. Ça suit quasiment comme un mix dans un club parfait. Je veux dire, les tunes s'enchaînent.
Exactement. C'est très éclectique. Tu sais. Il passe d'un style à l'autre. Ils ont engagé deux chanteuses qu'il n'y avait pas dans les autres albums précédents. Aurora et Néné. Qui est quand même présente, qui fait...
tu me fais une joke?
Non, mais c'est ça, Aurora de Norvège, une chanteuse de Norvège.
Okay.
Ça sonne un peu, justement, l'électro scandinave, là, je dirais.
C'est quoi, ça, l'électro
scandinave? C'est ce que j'ai lu. Moi, je ne suis pas amateur de ce genre de musique-là, mais c'est ce que j'ai lu. C'est un album party, comme tu dis. J'ai trouvé, il y en a une, c'est comme John Ring My Bell, là, avec les Carbells, un peu. Mm-hmm. Ça revient un peu dans l'ancien, un peu, même, je dirais, Kraftwerk, un peu, sur les synthétiseurs. À peu près dans le milieu de l'album, j'ai trouvé. Sauf que il y a des beats abrutissants qui couvrent tout ça, qui me fait décrocher tout le temps. Tu sais, quand c'est de la sirène, là, comme une sirène de police qui
c'est une tune,
surtout. Non, il y en a Malazelle, puis
Puis y a, en tout cas, il y en a deux, trois, puis ça met des...
Parce que dans tes tunes pop, il n'y en a pas des sirènes, c'est
non.
Que ça, des
non, non, y a
des
sirènes. Non, il n'y en a pas.
C'est que ça.
Non, il n'y en a pas. Non, non, mais un bruit abrutissant.
Mais c'est ça.
Un bruit abrutissant qui te punch à la tête tout le temps, là. Bang, 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 bang,
non,
bang.
Non, tu parles du snare. Pas du snare, du bass drum.
Ben, le synthétiseur qui embarque avec ça, puis que ça tombe, puis ça tombe.
Moi, je trouve plutôt coloré. Anyway, moi, tu sais, de toute façon, c'est un nom. T'imagines-tu? J'ai eu le défaut, puis.
Ouais, mais moi, j'ai eu du plaisir. Moi, j'ai dit oui, mais j'ai eu du plaisir quand même à l'écouter. Même s'il y avait ces bouts-là, j'ai trouvé ça correct quand même.
Tu changes mon nom pour ton oui, toi aussi, c'est un oui.
Ouais, ouais, moi, c'est un oui. Oui.
Toi, c'est un oui?
Ouais, c'est un oui. C'est un oui parce que
j'ai... c'est fucké. On a non, mais
j'ai eu du plaisir. J'ai eu du plaisir pareil. Il y a juste ces bouts-là abrutissants, mais le reste, c'est comme tu dis, ça décalait, puis les styles changeaient une après l'autre, puis c'était intéressant.
C'est tout le temps que tu es ça avec Chemical Brothers, puis il y a le côté psychédélique que les gens aimaient beaucoup qui est revenu quand même avec ce disque-là.
Un peu aussi.
Donc, vraiment, c'est appréciable. Mais c'est peut-être la musique jetable, je sais pas à quel point. Parce qu'on apprécie quand ça joue, mais après ça, je fais pas.
Ben, comment,
j'ai besoin de le réécouter. Mais... Pourtant, il y a plein de sons là-dedans. Il y a un super beau travail. On va y aller maintenant avec un autre groupe qui s'appelle The Buddha's Band.
Oui!
L'album 5, tu connais? Tu connais?
Ah, j'aime tellement ça.
Ah oui, d'accord. Ouais. Cinquième album de ces 8 musiciens.
Vous aimez pas ça? C'est plus cette conversation-là, c'est okay. Ah oui, d'accord.
Ben non, mais non, ah, oui, d'accord. Cinquième album de ces 8 musiciens de New York. Et puis quand on parle de musique générique,
ouais.
On associe ça directement des fois avec la musique commerciale, radio, de la pop musique que l'on qualifie peut-être de peinture à numéro. Mais si on s'attarde deux secondes, est-ce que ça veut dire générique? Générique, dans le fond, c'est peut-être pas nécessairement si péjoratif que ça. C'est un processus d'éléments ajoutés qui donne tel ou tel résultat. Donc, c'est... Comment?
Au lieu de générique, moi, je dirais passe-partout, je trouve.
Passe-partout.
Oui, ça s'écoute bien en ambiance.
C'est ça.
Ouais.
Fait qu'ils mettent tous les éléments. Donc, c'est un résultat attendu, donc très calculé de leur part. Et puis, Buddha's Band, c'est justement, fait partie de cela. Sur le papier, le concept, sur papier, a l'air intéressant. C'est du funk, c'est du rock, c'est du afro.
Mais c'est lourd.
Surf rock. Justement, il y a un petit peu quasiment de proto-métal. Ouais. Il y a un bon son souillé, lointain, on dirait comme un band qui joue au-dessus des montagnes avec tout ça. Mais c'est générique. Puis contrairement à de la pop radio, souvent quand on écoute de la tune pop, on a quand même un riff qui nous revient en tête. Et puis avec Buddha's Band, c'est pas là, par contre. Donc c'est générique. Mmh. Fait qu'on fait un coup. C'est où que je retiens mon morceau? J'en retiens rien. Sinon, mettons, qu'est-ce que tu penses?
Ben moi, tu sais, c'est mon genre de musique. Hein. J'aime ça le funk, le jazz avec les cuivres et tout. J'ai trouvé que la guitare et la basse étaient prédominantes. Elle enterrait même les cuivres qui sont d'habitude.
Présents.
Ben, sont présents, mais
sont. Très présents encore.
Sont présents, mais la basse est vraiment très forte. Là, puis la guitare aussi, je trouve que ça l'englobe beaucoup.
Et toi, tu écoutes avec des drills. Yeah. C'est normal que la basse est plus forte que t'es aussi d'écoutant, fuck tout.
Mais tu sais, Gold Star, je trouvais c'était un peu les skits de Beastie Boys là, qu'il y avait dans chaque album, là, qui jouaient juste des instruments, qui chantaient pas.
Mm-hmm.
J'ai trouvé qu'il y avait ce petit côté-là dans cet album-là. Sauf qu'ils sont 6 de plus, fait que ça sonnait encore plus, mais je veux dire,
c'était un petit côté de fun. Ils sont plein de monde, puis ça sonne comme si c'était 3. Je vois pas.
Puis il y avait la tune Arkin Rambler, que je trouvais que justement la basse était entraînante, puis tout ça, puis ça ressemblait à la tune Apache de Incredible Bongo Band, qui était écrit plein de fois par les rappers. Ok, on est là-dedans. Avec les bongos, puis tout ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça excellent, puis je samplerais l'album faire un album rap parce que
c'est un band d'échantillon, mais c'est justement c'est pas un band que tu fais je vais écouter ce tune là notamment marqué dans la vie. C'est un bel album de tapisserie.
Oui,
tu sais, moi, quand j'achète la tapisserie, une fois collée sur le mur, cette tapisserie-là ne m'appartient pas. Donc, l'album ne peut pas m'appartenir non plus.
Ne peut pas, non?
Ben non. Puis avec Buddha's Band, non seulement on s'aperçoit que la tapisserie n'est pas la nôtre, mais elle ne colle pas. On va y aller. L'album Bleu Nuit, le Jardin des Mémoires, c'est sorti le 12 avril dernier, donc c'est très chaud.
Ouais.
Sur l'album Michel Records, c'est du post-punk, du dark wave, écrit et composé par Ian Skeen, précieusement aidé par Nicolas Gaudreau et Laurent Saint-Pierre. Donc c'est un trio.
Et Julien Minot aussi, qui est là-dedans.
Oui.
Hein?
C'était ça mon pote.
Vas-y, ton punch, vas-y.
Ben, tu viens de le dire, mon punch.
Ça, j'ai mis le nom de l'ex-Malajube qui réalise l'album et qui participe aussi à l'album.
Parce que d'emblée, les comparaisons sont trop faciles à faire. Dans le fond, quand on écoute les 10 premières secondes de n'importe quel tune de cet album-là, c'est sûr qu'on va penser justement à Corridor. Corridor qui est sur Michel Records aussi, ou justement Malajube. Mais là, vu qu'il a spoilé. Mais non, mais il fallait bien dire, mon ami. Fait que t'as raison, Lacro. A participé quand même. Fait que tous ceux qui pensaient, il est où Julien Minot, Malajube, c'est-tu mort? Eh bien, il est encore bien vivant. C'est juste que depuis l'album La Caverne, il est resté dedans. Donc, on sait plus trop où est-ce qu'il est maintenant. Tu sais. Mais il enregistre des albums de band pop lugubres. Voilà, parce que Bleu Nuit s'aventure un peu plus vers les expérimentations. Digne du fameux groupe canadien que j'aime beaucoup. Peut-être toi, non, je pense. Preoccupation.
Ben moi,
j'ai fait... Ça sonne tellement j'ai comme ça, c'est incroyable.
J'ai fait un peu des liens avec Timber aussi.
Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Timber, c'est plus comme, mettons, vers le folk, que les autres, c'est plus vers la dark wave.
Oui,
c'est Preoccupation.
Non, c'est pas bien. Puis j'aime le drum. Puis tu sais, on parlait de Norval il y a pas longtemps. C'est à peu près le même genre de drummer quand on parle de ce genre de musique-là. Puis il drum à travers tout ça.
Un gros mur de son.
À travers des guitares qui sont peut-être un peu plus loose, des sonorités de, des guitares un peu plus évasives. Faisait penser le drummer, puis peut-être aussi avec celle de Norval, à Low Tollers des Cure, le premier drummer, là, avec Joy Forest. Hein. Tu sais, tout le monde pouvait apprendre à jouer du drum avec lui, tellement qu'il était simple, mais tellement efficace aussi. Ça s'ajoute un peu à cette espèce de rock gothique, mettons.
Les
paroles de Yann, c'est des courts poèmes que moi je qualifierais peut-être d'énigmes, de petits haïkus, ou peut-être des tanka, vu que c'est une forme de poésie maintenant chantée. Donc il n'est pas nécessaire d'obtenir la réponse nécessairement de l'énigme, se laisser planer le mystère, c'est l'ultime, je pense, chez Bleu Nuit. Donc moi je pense, pour ceux qui aiment Preoccupation, comme j'ai dit, Sounds aussi.
Ouais, exact, on est tous là-dedans. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a une belle effervescence des bands post-rock en français.
Ouais.
En plus, les copies, ils seraient contents, hein, français.
Ouais.
Ils s'en foutent. Non, mais c'est ça. C'est ça, pareil. Non, mais
il y a...
avant, ces bands-là, ils chantaient en anglais.
C'est ça, avant.
Non.
Tu le connais pas, lui, avant ça.
Je parle des groupes de Montréal avant, là, ils s'en allaient plus vers l'anglais dans ce style de musique-là. Mais là, il y en a de plus en plus.
Raison,
les Québécois qui s'en vont vers ça.
Si on se fout aux années 80.
Oui.
Voilà.
Non, pas les années 80, non.
Ah oui, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Le documentaire qu'on avait vu à un moment donné.
Oui, c'est ça, exact.
C'est vrai que c'est exact ou pas? T'es gossant. On va y aller maintenant avec Chosy and Exile, l'album Black Beans. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Lacroix?
Ah, Chosy and Exile.
Bon. Et hip-hop, c'est sûr, c'est Lacro.
Et oui. Exile, c'est un réalisateur qui roule sa base depuis longtemps. Il est avec Emanon, avec Hello Black. Puis il est avec Blue and Exile.
Il était avec Hello Black?
Oui, c'est Emanon. Emanon, c'est leur band.
OK.
Puis Blue and Exile aussi, qui a eu un certain succès underground. Et là, il s'est mis avec Chosy, qui est un rappeur métissé, mexicain, afro-américain. Alors, il connaît comme les deux, il vient des ghettos de Los Angeles, fait qu'il connaît comme le côté lowrider des Chicanos, genre des Mexicains, puis puis le soul de la musique noire soul, je te dirais. Fait, Exile, il a compris ça.
Ouais.
Et l'album, il est superbe. C'est mon album d'été. Tu sais, quand le soleil sort, comme là, il y en a
comme
tout
là,
temps.
Oui, ça sort.
Non, mais dans ce temps-ci, le soleil sort plus, le printemps arrive, mais ça, c'est mon album qui sort en même temps. Il y en a tout le temps un. Et c'est
ça m'a fait remarquer, moi, il y a beaucoup d'échantillons de chez Exile, parce que c'est lui qui a fait la musique. Qui provoque à peu près la même ambiance, je te dirais, que l'artiste canadien Chaos.
Ah ouais, tu trouves?
Ben oui, dans le genre de
beat le petit doo-wop, le petit soul. En tout cas, il est comme il revient comme dans la nostalgie, puis il réussit bien ça. Puis la chanson Lolo, pas les Lolo, là, les seins, là, Lolo. L-O-W pour Lowrider. Il rêve d'avoir un Lowrider, tu sais, de toute sa vie. Puis cette chanson-là est tellement belle. Puis avec le soleil, tout fit. C'est parfait. Non, c'est parfait comme album pour l'été.
Tu peux te marier avec les tunes, hein?
C'est intéressant. Non, mais je vais te marier avec le prochain.
C'est un album que je vais essayer d'être bref quand même. C'est un album qui est rien de méchant, hein, vraiment. C'est plutôt gentil.
C'est du rap inoffensif.
C'est ça. Puis c'est tellement gentil que moi, j'ai demandé à un moment donné, hey, je suis pas sûr d'aimer ça. Puis il a fait, ah, oh, c'est pas grave. Pas grave. Puis il m'a laissé comme pas.
Ouais.
L'album, il m'a dit, t'as pas besoin d'aimer ça. Donc c'est un album qui plaira aux fans. Mais est-ce qu'il y a des fans? Les autres.
Oh, il y en a.
C'est d'accord. J'ai pas, moi, je trouvais qu'il y avait un peu trop d'amalgame de chants néo-gospel, de soul R&B.
Moi, ça a fait
ça m'appartient pas, ce genre de monde-là. Donc, c'est pour ça. Mais j'aime Exam quand même. Puis, justement, tantôt, je disais Chaos. Chaos, c'est un artiste qui s'éparpille. Exam, c'est quelqu'un qui a de l'ambiance de Chaos quand même, mais que. Pis c'est le fun de temps en temps d'avoir des albums rap qui ont un producer. Il y en a de moins en moins, mettons. Ouais. Ça fait du bien d'avoir un album qui tient la route avec un son seulement puis un MC seulement. Mm-hmm. En parlant de hip-hop, on y va tout de suite avec un autre qui s'appelle Epic Beard Man. Est-ce que tu connais Epic Beard Man? Non,
j'aime beaucoup le nom du...
Oui,
ouais.
C'est
un MC ou seulement? C'est un duo. L'album s'appelle This Was Supposed to be Fun. Alors, c'est deux vétérans de la scène américaine underground. Le slamant plusieurs fois couronné champion, B. Dolin, qui avait sorti son excellent album, M. Lacroix, qui s'appelait Fallen House, Sunken City, avec Feu Alias, qu'on aimait Alias, puis qu'on m'a dit qu'il avait bien travaillé sur cet album-là. Et puis, le deuxième du duo, c'est Sage Francis, qui est responsable, selon moi, d'un des plus beaux, sinon le plus beau mélange du genre avec sa chanson Sea Lion, mettant en vedette, ouais, l'autre que le chanteur country, deux secondes, Will All Damn, qui était le chanteur de Palace Brothers, Bonnie Prince Billy, sur Healthy Distrust. Tu connais A Healthy Distrust?
Non, il était Distrust, mais je connais pas le gars de l'autre que tu
d'accord.
dis.
On est content justement de réentendre un Sage Francis qui rappe pour vrai.
C'est un classique, cet album.
Il s'est mouché un bon coup, il s'est fait sécher les yeux, il a arrêté de broyer. Son style de mort, c'est sûr que Sage Francis, c'est un chialeux, mais là, il est un peu plus up-tempo parce que c'est un album.
Il est politique aussi.
C'est old school, c'est franc, c'est à la bonne franquette, c'est smooth. Beaucoup d'échantillons empruntés. Reconnu.
J'en reviens pas, non, mais j'en reviens pas. C'est ça, ben, c'est ça, l'union fait la force parce que les derniers de Sage Francis, j'ai pas embarqué de B. Dolin non plus. Là, on dirait qu'ils ont travaillé full longtemps. Je pense que ça a pris 3 ans à faire l'album.
Puis, ça paraît pas.
Puis, les échantillons sont superbes. Ils ont pris d'ailleurs Brass Monkey de Beastie Boys. Mm-hmm. Puis,
il y a du Cypress Hill aussi.
En 2019, tu peux-tu prendre autant de samples? T'as-tu le droit d'en prendre autant? T'sais, ils vont-tu se faire ramasser? Parce qu'il y en a en maudit. Ça fait tellement longtemps que j'ai entendu un album avec autant de samples. C'est tellement, ils sont tellement bien faits, bien travaillés. Moi, c'est un album dans les, je sais pas, 3, 4, 5 ans. C'est un des meilleurs que j'ai entendu.
T'es sérieux?
Oui, oui.
Moi, j'ai trouvé ça complètement brouillon. Ça m'a fait penser, par exemple...
Ah, brouillon! Je te jure!
Sérieux? La dynamique... Attends une minute, Lacroix, tu vas quand même d'accord à un certain niveau. La dynamique m'a fait penser au duo Rob Sonic, A$AP Rock sur Hail Mary Melon. OK? Mais Hail Mary Melon, ils ont un concept qui parle du début à la fin. Eux autres, c'est un romance tune, whatever. C'est un peu, c'est extrêmement brouillon. La tune You Can Tell Me Shit, c'est comme un petit peu ridicule. C'est juste.
Moi, c'est ça que j'aime. Ça sonne un petit peu
comme Lonely Island. Il y a même
Menon. Ça sonne comme Lonely Island, ça c'est clair.
C'est
funny. Tu connais Lonely Island, ça sonne vraiment mal.
Ah non, mais les paroles, toutes font les références au Golden Age rap, même dans les intonations. Ça revient comme en arrière, mais c'est tellement bien monté. Moi, je te dis, j'ai écouté l'autre album précédent, puis j'ai eu le même feeling.
C'est pas toutes les tunes qui sont bonnes, viens pas dire
ça. Non, non, moi, ça a déferlé comme ça, puis ça a jamais arrêté, puis okay. Ça montait.
Mais il y a un côté enjoué que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ces deux gars-là.
Exactement.
La chimie est là, bien entendu. C'est sûr, moi, je dis non. Parce que l'album disait « This was supposed to be fun ». J'en ai pas vraiment eu malheureusement.
J'ai du fun, merci les gars.
Comment? « This was supposed ». »«
This was supposed ».
Il y a un beau clin d'œil en plus. Il y a un beau clin d'œil dans le logo du band. C'est le logo des PMD.
Désolé Max, ça n'a pas marché.
Le logo des PMD, le groupe légendaire de rap. Puis ils ont changé ça, puis ils ont écrit « Epic Beer Man » avec...
Fait que dans l'heure, encore un album ou deux, puis ils vont peut-être réussir à se trouver. On va y aller avec le dernier, il faut y aller avec le dernier, le temps. On va y aller avec comment ça s'appelle?
Ben of Skulls.
The Ben of Skulls, l'album.
Love is all you love.
Vas-y donc, la course, c'est ton choix.
Moi, j'ai dit non. C'est mon choix. Moi, je
prends n'importe
quoi. Moi, je prends n'importe quoi, pour de vrai.
Ben oui, mais je l'ai choisi un peu. Parce que là, c'est
alors, vrai, c'est trois membres. C'est Russell Martin et Mauro Richardson et Julian Dario. Non, ils sont trois, j'ai dit.
Okay,
et c'est du indie rock aux influences blues, OK? Au début, quand tu commences à écouter l'album. Mais aussitôt que la fille commence à chanter, là, ça vire pop plate. Je sais pas comment. Non, mais c'est plate. C'est plate, on dirait qu'ils ont manié les chansons pour quand la fille chante, il faut que ça soit plus pop. Puis ça a comme scrappé l'album à partir du milieu.
Mm-hmm. Parce que c'est effectivement, moi je pense que je suis d'accord avec toi, parce qu'en gros, ils ont du potentiel énorme là, au niveau du musicianship, ouais. Des compositions. J'ai l'impression c'est justement qu'ils ne savaient pas trop où mettre les pieds. Puis je ne sais pas moi non plus, quand j'écoutais l'album, où mettre les miens. Encore peut-être ailleurs que dans leur route, parce qu'ils ne m'intéressaient pas vraiment. Il y a des tournures qui étaient vraiment trop cheesy pour moi. Il y avait d'autres prises aussi complètement réussies, comme Sound of You, qui était un croisement entre les Pure, Black Mountains, oui. Des choses comme ça. C'est je trouvais que c'était un band qui sonnait extrêmement canadien, mais pourtant c'est un groupe britannique.
Ouais.
Ça, c'est quand même assez étrange.
Et même, tu sais, We Are Alive, là, quand je te dis que ça a tombé dans le pop, tout ça ressemblait à du Roxette puis du Savage Garden.
Oh, oui. Jusque-là, toi!
Oh, ouais, ça va jusque-là.
C'est bon,
mais...
Attends,
dans le temps, c'était bon. Dans le temps, dans les années 90, c'est bon, mais ça n'a pas vieilli.
Il n'y a pas vieilli personne.
C'est ça, on n'aime pas la musique.
C'est
sûr
que
mais
c'est bon, c'est pas bon.
Chelle. Il a pas sorti son pipi, donc il faut acheter ses disques. Il faut encourager ceux qui sont pas violents, même ça s'ils font de la merde. C'est
la conclusion.
Non, c'est pas ça.
Ouvre ton œil.
Non, c'est pas ça la conclusion.
Je me limite d'être là. Savage Garden, c'était too much.
Car
tu vas
heurter
l'enfant, moi.
Vas-y avec la conclusion du show, ma chère.
Bye! Bye!
N'oubliez pas, si vous appréciez notre travail, ben bien sûr, on en parle, on le partage, que ce soit la version vidéo, comme vous voyez ici, ou audio, on est disponible un peu partout. Google Play, Balado Québec, Réseau, iTunes, Spotify. Ouais. Et d'ici le prochain épisode, on vous invite, bien sûr, à nous suivre. Le spin-off Radio Balado, qui quand même gagne. Quand même, tu devrais venir faire au moins un épisode, je te jure. Je te jure, faut que tu viennes faire le spin-off. Le radio show de la part écouteur, on s'amuse. C'est un format complètement radio, contrairement à celui-là qui est balado. C'est aussi intéressant, mais c'est ça, le format est différent. Les deux sont super le fun à suivre. Et puis, nous, on vous invite à rester sur notre page pendant le mois, parce que des tracks s'en viennent à l'intervalle, en entrevue, en performance. Nous, on va mettre ça une semaine après la mise en ligne de cet épisode-ci. Sinon, par contre, en balado audio, l'intervalle est déjà syncé avec ça. Donc, merci toujours de nous suivre. Et à la prochaine, les amis. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye.
Bye.
Hey, salut les mecs, les mecs de la terre écouteurs, ouais! C'est Marius, votre petit cousin français, là. Et je me disais que puisque votre balado connaît du succès, vous pourriez peut-être venir en aide vos cousins français, vous voyez, parce que vous êtes pas sans savoir que Notre-Dame a flambé cette semaine. Et on écoute les dents, vous voyez, les petits, les grands, surtout les grands, en fait. Parce que nous, en fait, les gens pauvres, les gens dans la misère, ceux qui crèvent de faim, les victimes de la guerre, ensemble, balance. Alors du coup, ce qu'on veut, c'est restaurer le patrimoine. Le reste, on s'en balance. Ah, merci d'avance, les mecs. Hein. Je suis sûre que vous allez assurer, ouais.
Salut, chers passionnés de musique. Salut. Bienvenue à l'intervalle. Qu'est-ce que c'est que l'intervalle? C'est ce segment appendice à la paire d'écouteurs. On avait à l'épisode 3 notre cher artiste invité, Détrac. Salut Détrac, comment
ça
va?
Salut.
Qui était venu nous parler de I Am, l'école du micro d'argent, dans le segment de l'oreille chronique, comme étant un album qu'il avait quand même forgé, peut-être.
Marqué.
Qui avait marqué, ça, c'est sûr et certain. Donc, vite fait, cet épisode-là est juste en dessous du vidéo là, auquel vous écoutez, ou sinon dans notre section vidéo sur notre page. Donc voilà, Monsieur Détrac sortait le 11, c'était quoi?
5 avril, en fait, c'est sorti. Le 11 et 12, c'était mes lancements.
Le lancement au Quai des Brumes.
C'est ça, au Quai des Brumes, puis ouais, c'est une belle place.
Mais, hein?
Oui.
Puis,
donc on avait, oui, vas-y.
Puis le Troquet à Gatineau, le 12.
Ah, t'en as fait deux?
Oui. Back to back.
Mais Fudge, j'y avais fait 5. Hein? Je pense que c'est ça, à ce temps, on peut faire plusieurs lancements. Ouais. Steph, tu peux pogner quand même son album, Détrac, que Dieu est un Yankee. C'est sur ça. Sur ça, qu'on va parler quand même aujourd'hui. Détrac est actif quand même, c'est pas un nouveau, hein, il est actif depuis une dizaine d'années. Combien d'années exactement?
Ben, ça fait un bout, là, maintenant. Depuis 2001, j'ai commencé à rapper, mais là, après, j'ai enfilé les projets, j'ai eu des projets sans contre-disque. Mais tu sais, 2013, c'était mon premier album sous étiquette au Québec. Puis j'en ai eu un en 2016, c'était mon deuxième album avec Coyote Records qui était nominé à la disque. Puis là ensuite.
C'était lequel?
Message texte un élégant.
Oui.
Puis ouais, c'est ça.
Qu'est-ce
que c'est? Je trouve ça message texte élégant. Ouais.
Non, non, mais j'ai des genres de titres comme ça.
Ah, c'est ouais. Bien.
Puis ben là c'est mon plus récent avec Coyote Records, c'est ça.
Parce que effectivement rappeur, auteur, beatmaker aussi quand même,
ouais.
c'est toi qui formes la, ouais. la plupart de tes beats sur tes ouais. albums.
Mais en fait c'est ça l'affaire, c'est que sur mes deux derniers j'ai travaillé avec un autre musicien, Pierre-Luc Clément, et mais sur celui-là je voulais vraiment me faire plaisir, je me suis dit non, j'ai tellement travaillé mon beatmaking dans les dernières années, je me suis dit je veux que ce soit vraiment mes beats, je l'assume. À part pour deux chansons où j'ai fait appel à un ami à moi qui fait des beats, Nicolas Craven, puis un autre qui est Dr. Mad pour ma chanson avec Corias. Mm-hmm. Mais sinon, pour le reste, c'est tout moi.
Sur quel logiciel tu travailles?
Ableton Live.
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus? Pour ceux qui aiment faire les beats, là, qui aimeraient savoir.
Plein de monde.
Ouais. Puis pourquoi c'est Ableton Live que tu as choisi?
Pourquoi moi? Parce que en 2013, je m'étais pogné un Mac, puis il n'y avait pas la version FL Studio en Mac,
okay.
Apple, donc j'ai dû me convertir à un nouveau logiciel, puis j'ai quelqu'un qui m'avait installé Ableton Live, puis j'aimais le côté multipiste, puis c'est super facile de traquer des instruments par-dessus ta prod de beatmaking,
mm-hmm.
puis j'ai vraiment travaillé à comprendre ce logiciel-là, puis je suis rendu à un point où je l'ai assez bien maîtrisé pour faire ce que j'ai à faire.
En fait. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est tout en MIDI, ou t'importes quand même des instruments analogues?
Un mélange de tout, je joue un peu de guitare, je joue un peu de piano, cool. Ensuite je fais de l'échantillonnage, tu sais, j'y vais.
Mettons sur cet album-là,
mm-hmm.
combien de pourcentage de MIDI analogue?
Ben là je pourrais pas dire, je pourrais aller chanson par chanson, là, mais...
On va le faire!
Allons-y!
Allons-y,
oui.
Mais parce qu'il y a plusieurs, c'est très éclectique quand même.
Ouais.
Puis tantôt, juste avant l'entrevue, je m'étais mélangé parce que moi, je croyais quand même que tu avais plusieurs producteurs sur l'album. Pourtant, c'est toi qui viens de citer, tu en as fait la majorité. Et pourtant, il y a plusieurs styles.
Ouais.
Vous n'avez pas un peu plus jazz, un peu plus, peut-être, contemporain aussi.
Ouais.
Peut-être, pas de trap, là, mais tu sais.
Ouais, un peu, tu sais, je sais pas.
Un hi-hat qui va vite, là,
maintenant. Ouais, j'aime les appréciateurs sur les hi-hats, les 808, plus de 808, plus de clap.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Fait j'ai essayé aussi de mettre à jour ma prod, mais tout en restant fidèle au style qui me va bien, en fait, aussi.
Mm-hmm.
Fait que, c'est ça.
Puis, c'est ça, t'es reconnu aussi en tant que slammer.
Mm-hmm.
OK? Puis, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre mettant un rappeur et un slammer?
Ben, le slam, en fait, c'est une compétition de poésie où les gens vont performer un poème en a cappella. Donc, okay. Pas de musique, tu sais.
Ouais.
Et à la fin, 5 personnes à la foule donnent un score de 1 à 10. Donc, c'est une compétition de poésie. Et il y a des classements à travers tout ça. Et il y a une ligue au Québec. Donc moi, en 2013, j'ai gagné le titre de champion québécois de slam.
Oui.
Et je suis allé à la Coupe du Monde à Paris. J'ai gagné quatrième à la Coupe du Monde.
Ben, c'est fou. Hein.
Ouais. Mais c'est bon aussi. Il est pas pire, moi, ça.
Il participe dans les ligues à Montréal. Ici, ouais. Là. Fait que le slam, c'est vraiment ça. Mais souvent, on fait une association au slam avec le spoken word. J'appellerais ça
ouais,
le spoken
word. C'est ça. Il y a une différence?
C'est-à-dire que le slam... En réalité, c'est vraiment un concours de poésie. Mm. Mais depuis Grand Corps Malade, Grand Corps Malade s'est approprié ce terme-là, question marketing, si on veut.
Mm.
Et il l'a utilisé pour vendre son genre musical. Mais s'il y aurait un vrai terme à donner, j'appellerais plus ça du spoken word. Et là, quand on rentre là-dedans, il y a plusieurs artistes qui font ça et qui l'ont toujours fait. T'sais, je peux dire des Serge Gainsbourg.
Ouais. Ben oui, carrément.
L'homme à la tête de chou, je ne me rappelle plus l'album exactement.
L'homme à la tête de chou.
Oui, exactement, c'est ça. Richard Desjardins, Jill Scott Heron aux États-Unis.
Ben oui,
la culture spoken word a toujours été là. C'est juste que depuis que le slam est apparu, certains artistes se l'ont approprié pour une question commerciale, mais les vrais fondateurs du slam diraient que le slam, ça n'a rien à voir avec ça.
Mm-hmm.
Mais j'aime pas trop embarquer dans les définitions des choses, mais c'est ça. Ouais.
La différence,
en gros,
okay.
C'est ça.
Puis là, parlant de ça, sur Message Texte à Annie Ligand, ton album,
ouais.
Qu'on parlait précédemment. Fait la chanson Islam,
ouais.
Y-Slam,
mm-hmm.
Qui parlait la religion. T'as-tu des commentaires positifs, négatifs sur ce
mais
morceau-là?
En fait, c'est pas tant la religion, c'est plus... Ben, je me suis approprié les termes liés à la religion de l'islam et j'ai fait des jeux de mots avec, mais je parle pas de la religion, c'est plus... je dis les raisons pour lesquelles le gars islam.
Oui.
Tu sais?
Oh oui. C'est très...
J'ai jamais eu de commentaires, vraiment, pour vrai. J'ai tout le temps eu des... de partout. Peut-être une fois, quand je l'ai fait à Paris, on est quelqu'un qui avait moins aimé ça.
Ouais.
Mais tu sais, en même temps, j'étais en France et les Français comprennent pas le joual non plus. Ouais. Il y a un côté joual à ça.
Oui.
Et il y a un côté où ça a mal été interprété. Puis ça peut arriver n'importe quand, n'importe quel contexte. T'sais. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais après, j'aurais discuté avec la personne. Puis moi, mon intention, c'est pas de... rire d'une religion ou de c'est juste un jeu de mots, c'est une esthétique, c'est un exercice de style, tu sais.
Mais en s'attendant d'utiliser ce terme-là, c'est sûr que
c'est sûr qu'il y a des gens peut-être
quand
ça va les blesser.
Une couple de questions.
Mais moi à la fin, moi je m'arrête pas à ça, si j'ai le goût de faire quelque chose, ça m'intéresse, tant mieux. Puis si t'as pas aimé ça, ben
c'est... Il y a pas eu répercussions négatives.
Non, jamais.
C'est bien.
La chanson Dieu est un Yankee.
Je suis trop religieux dans mes affaires.
Non, mais c'est ça. C'est fou, hein. Là, tu dis, oh non, moi je m'en fous, mais je suis pas sûr. Tu
checkeras
pas trop dans ta tête. Je pense qu'il y a quelque chose.
C'est drôle, ouais, t'as raison. Quelqu'un m'a déjà fait remarquer que les thématiques de la religion reviennent dans mes textes.
Ouais.
Mais c'est peut-être parce que je trouve qu'il y a des images là-dedans, dans l'imagerie religieuse qui vient, je trouve, de poétique. Je suis pas un gars pratiquant, là, c'est juste. Puis Dieu est un Yankee, c'était une chanson juste sur l'américanisation.
Ouais, ouais.
Comment on est super américain sans s'en rendre compte nous-mêmes. Mm-hmm. C'est aussi un clin d'œil à Richard Desjardins. Je suis un fan de Richard Desjardins, les Yankees.
Ouais. Ouais.
Fait que c'est un mélange de tout ça. Puis c'est un hommage aussi à moi qui a grandi sur le hip-hop, sur une culture super américaine pour moi.
Ouais.
Fait que c'est un peu...
Américaine puis française aussi. Mais c'est mentionné NTM. I Am.
Ouais.
Mais aussi sur la chanson, justement, Dieu est un Yankee. L'échantillon, c'est du NTM. Là.
100%. C'est ma Benz.
Ma Benz,
c'est ma Benz de NTM que
j'ai chanté. J'étais sûr et certain de ça. Voilà. Quelle chanson sur ton dernier album, justement, sonorité funk, G-funk. Ouais. C'est toi qui as monté ces beats-là.
Ouais, Tu vas être un Danny. Donc ça, c'est un synth microcore que j'ai composé la ligne de bass. Puis,
mais c'est-tu l'influence du G-funk des années 90?
Ça, ou, c'est,
pourquoi t'es attiré vers ce genre
J'ai toujours aimé l'électro-funk. Pour vrai, si j'étais un DJ, j'aurais énormément d'électro-funk. De Gap Band, même les vieux succès de Michael Jackson, je sais pas, non mais j'aime les riffs de synth, tu sais, Rick James.
Ouais.
Ok, c'est
pas bien. Est-ce que tu es capable de péter un solo, tu sais, avec ceux qui ont le tube là?
Non, je me débrouille musicalement. Peut-être si je le pratiquerais, mais là si tu me sors l'instrument, c'est ça, je comprends.
Mais t'en joues un peu.
J'ai aimé des DJ Quick puis toute cette période-là. Le G Funk, ça a quand même bien fonctionné. Moi aussi,
donc on a entendu quand même quelques noms de ses influences. Et ceux qui voudront en savoir plus, écoutez l'album et surtout écoutez sa chanson Dans mon Walkman. C'est quasiment un CV ambulant.
Surtout ce qui est
des influences, etc.
Il y a quelques anachronismes.
Ah ouais?
Par contre, je dois avouer.
Okay.
Ça, c'est mon DJ, il me l'a dit, puis il a raison. Parce que des fois, pour la rime, tu triches.
Ouais.
Ok, c'est correct.
Ah, tu triches pour la rime.
Je fais des rimes, okay. Mais.
Que c'est plus récent que dans ta période que tu écoutais ton Walkman, c'est ça?
On s'entend quand même. Ouais. Mais, mais c'est quand même aussi un hommage à cette époque du Walkman jaune.
Ben oui.
Ouais.
Puis ce beat-là qui est un synth bass inspiré des rappeurs de la West Coast actuels comme YG, un peu Nipsey Hussle, les synth bass que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça. Mais c'est drôle, on me dit, c'est vrai que j'ai une sonorité old school, mais en même temps, j'essaie de trouver des sons qui
non, sont. Non, carrément. J'ai pas dit qu'il était old school. Là.
Non, mais je parle pas de
personne
vous. Mais
ça,
mais
dit ça. Qui a dit ça?
Personne. Plein de monde, mais non. Sortir des noms, là.
Mais tu peux avoir, t'es capable de maintenir le flow school, t'es capable d'aller ailleurs aussi. Ouais. Extrêmement versatile à ce niveau-là. Moi, j'ai aimé beaucoup la tune. Donne-moi du Véro. Est-ce que tu as su de la passer à la soirée T'es encore jeune?
Mais je l'ai su.
Olivier Nickel l'a fait passer il y a pas longtemps.
Ouais, j'ai trouvé ça le fun.
Ça t'était pas courant?
Non, je savais pas. Ben, je l'ai su après l'émission. Quelqu'un m'a envoyé un message. Fait que je l'ai écouté. Fait que c'était
je sais pas comment qu'il a formule sa chronique. Là. Ouais. Est-ce qui amène ces trucs-là? Est-ce que c'est...
C'est un recherchiste.
Tu t'es emmené, c'est vite,
t'as pas c'est j'ai ben avec un label, t'as un gars qui fait les relations, les relations presse, il envoie ta musique, fait après tu sais pas trop dans quelles oreilles ça va tomber.
Okay.
Mais c'est ça qui est le fun de la musique en même temps, parce que tu fais de la musique puis tu sais pas qui tombe sur ta musique, tu sais pas qui t'écoute, tu sais pas... Des fois c'est le fun, mais des fois en même temps c'est difficile parce que tu sais pas si ta musique a un impact ou ce que tu fais est pertinent.
Une petite anecdote quand même, parce que habituellement quand elle vit Nikkei... encore en lien avec ce show-là.
Ouais, ouais.
Quand il apporte sa musique, c'est souvent des pour niaiser, mettons.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, pour rigoler d'eux.
Ouais.
Puis la tête de le gars, le Vautier.
Ouais, ouais, ouais.
Lui, il savait pas. Ouais. Fait qu'il était là, ça a l'air con. Tu sais, pour participer peut-être à l'ambiance. Ouais. Là, à un moment donné, t'es là, puis deux mots du Véro. Deux mots du Véro. Puis du Guillaume le Métis Vierge. Puis là, il a fait, OK, non, c'est pas con ce que tu nous amènes en fin de semaine.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, les deux avaient aimé ça.
Ouais, ben j'ai entendu, il a dit, ah, c'est bon, j'étais comme.
Nice.
Ouais, ça, vraiment. C'est parce qu'au début, ils s'attendaient à le niaiser, puis ils ont fait, ben non, c'est pas niaiseux.
C'est, non, c'est ça, c'est bon. Comment tu prends
Vautier. Vautier va niaiser moins de monde depuis qu'il anime Bonsoir, Bonsoir. Ouais. Après moi, il va pogner un petit peu son trou, mais moi, je l'adore.
Aussi.
J'ai pas de problème avec ce gars-là.
Vraiment.
La Croix, une autre question?
Ouais, ouais, mais c'est ça, je voulais peut-être demander. Allez, là, c'est une question bizarre, là, mais il y a un dude là, qui est dans ton vidéo. OK. Non, mais ça. C'est un gars avec un pitch, avec un chapeau, il est assez costaud.
Ouais.
Mettons, quand il est en vélo, il est à ta droite. Je l'ai vu à CBL pour le financement de CIBL.
Ah, c'est mon DJ.
C'est ton DJ? C'est quoi son nom?
DJ Easy LD.
Easy LD?
Easy LD.
OK, non, parce que je le vois partout.
Ben ouais, c'est lui qui a les cheveux longs.
Oui.
Que...
Le pinch, là. Il est assez costaud.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est mon boy, man. C'est mon DJ.
Parce qu'à CBL, on était au financement de CIBL quand ça a comme tombé puis qu'ils ont fait un
soirée. C'est Caro qui animait.
Puis il était. Ouais, d'ailleurs, puis il était là, il était tout le temps là backstage.
Ok, ouais, j'avais peut-être vu.
Ouais, j'étais avec MC La Sauce.
Ok.
Ouais.
Elle s'appelait pas de même.
Ah,
tu
connais MC La Sauce?
Non, maintenant, elle s'appelle plus
de
même, mais j'imagine qu'il la. S'il la connaît,
dans t'as connais-tu?
Ben, je la connais de réputation et de.
Ben, c'est ça. C'est pas parce que j'ai dit ça, parce que si je dis Maya Sauce
ou pas. Ok, fait que c'est ton DJ.
LD, ça a pas rapport avec LD, là, de. Non, je me trompe avec D-Natural.
Non, non, non.
Hey! Oh! Hey!
Non, c'est pas pour parler.
Ok,
ah ouais?
Non, c'est correct.
Mais il est pas grave, regarde,
c'est pas grave.
C'est pas grave,
ok, fait que c'est ton DJ.
C'est mon DJ.
Monsieur Détrac, on va te laisser le micro parce que tu nous interprétais quand même. Avec une grande générosité, merci beaucoup. La chanson, yes. Ok. Attends, mais hey, je vais te dire, c'est un des singles qui a fait « Hey, il faut que je l'invite, ce gars-là. »
Ok, ok,
cool. Alors, écoute, quand ta vidéo est sortie, j'ai fait « Ok, ce gars-là, on l'appelle. » Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Sur son album « Dieu est un Yankee », disponible partout?
Partout. Spotify, iTunes, tous les bons disquaires. S'il n'est pas là, vous pouvez le commander. C'est Universal, ça devrait être partout.
T'es-tu sur Bandcamp aussi?
Sur Bandcamp aussi.
Voilà, donc super facile d'accès. Nous interprètes, c'est ton premier single.
Ouais.
La chanson, ok. Merci les amis, à bientôt.
Si.
Des fois j'ai l'impression que la vie est trop lourde. C'est pour ça que je veux faire de la musique feel good. Ok, c'est des tracks, bonjour, salam alaikum. Je rappais avant Bandcamp et Facebook. Ok, ça c'est pour tous les promoteurs qui nous bookent. Pour mes fans qui mettent ma musique en boucle. Ok, je connais des gens qui ont eu tout cuit dans la bouche. Mais en matière d'émotions, sont banqueroute. Ok, je suis pas le genre à rouler un joint de couche. Mais si tu me le penses, je prends peut-être une coupe de pouf. Ok, moi je suis plutôt allongé, expresso double. Si j'ai pas mon café le matin, je boude. Ok, tu travailles moins sur ton art que sur ton look. Tes rhymes ont besoin de beaucoup de Photoshop. Ok, ce que tu représentes, j'en ai rien à foutre. Es-tu au moins capable d'avoir un bon flow qui tient la route? Ok, moi ça fait wouh, wouh. La police fait wouh, wouh. Le beat il fait wouh, wouh. full effet. Pour ce track, j'avais pas trouvé de titre. So j'ai laissé aller mon inspiration. Ok, je peux faire donner de l'attention à ma fille. Que tenait ma fille pour avoir de l'attention? Ok, ça fait longtemps que j'ai pas eu de jour pédagogique. Le dimanche, bosse pour les gens qui chôment. Ok, j'ai toujours fait cette classe comme un cours de physique. Juste pour ça, je mérite d'avoir une exemption. Ok, j'ai toujours voulu monter seul avec ma clique. J'suis pour le fils de franc-maçon. Ok, des fois, ça fait bizarre dans les parties de famille. Quand je leur dis que le rap, c'est ma profession. Ok, puis ce qui fait chier dans ce maudit monde capitaliste, c'est qu'on te juge pour ton nombre de possessions. Ok, tu dois avoir un fucking problème auditif. Écoute, mon salaire, c'est de vivre de ma passion. Ok, à tous ceux qui questionnent mes origines, fais juste rappeler que la scène, c'est mon domicile. Ok, j'ai pas le goût de rabaisser mon niveau de rime juste pour plaire à un public plus imbécile. Ok, je rock une scène comme si c'était une scène de crime. C'est avec ma plume que le colonel Mustard Jekyll. Ok, si on connecte humainement, c'est magnifique. Mets tes mains dans les armes, même si t'as pas dans le tissu d'orifique. Ok, moi ça fait whoop, whoop. La police fait whoop, whoop. Le beat il fait whoop, whoop. Pis la foule a fait whoop, whoop. Ça fait whoop, whoop. La police fait whoop, whoop. Le beat il fait whoop, whoop. La part d'écouteurs fait whoop, whoop. Ciao tout le monde.
C'est
impressionnant, bravo. Oui.